La voix, c'est, ça appartient à un domaine qui est moniste, monothéiste. La voix, c'est la voix de Dieu, c'est la voix de l'homme, et il n'y a que la voix entre Dieu et l'homme. Tout autre type de relation est réputé païen. Ça ne veut pas dire forcément que ce soit idolâtre, mais c'est avoda zara. C'est comportement de culte étranger. Ça ne veut pas dire forcément idolâtre, avoda tevilim, ou ordek rabim ou mazalo. Je ne traduis pas, c'est d'autres sujets. Je traduis pour ceux qui entendent. Or, lorsque la voix va de Dieu à l'homme, c'est la prophétie. Et lorsque la voix va de l'homme à Dieu, c'est la prière. Or, à propos de, à travers ce parallèle entre les cinq livres de la loi de Moïse et les cinq livres des psaumes, on a enseigné, c'est Abou Zaharam, qui est un des grands commentateurs de la fin du Moyen-Âge, un des grands commentateurs du rituel, de la liturgie, a enseigné que ce sont les mots de la prophétie qui sont inversés dans la prière. Ces mêmes mots qui viennent de haut en bas dans la prophétie sont redits de bas en haut dans la prière. Et bien entendu, il fallait être prophète pour savoir prier. Alors nous allons commencer à étudier cette première référence de la fin du tableau des dimensions de l'identité de Moïse. Vous allez prendre la référence où vous a marqué 1. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans l'histoire d'Abraham. Et ça, nous aurons ça comme premier appui de référence. Et ensuite, nous lirons un verset que vous n'avez pas, mais que je vous dirai sur le livre, dans l'enseignement de Moïse lui-même à ce sujet. Et donc, notre verset, je répète en attendant que tout le monde ait un texte, notre verset, c'est la relation entre prophétie et prière. Voici l'histoire du contexte de ce verset. C'est dans l'histoire des patriarches un thème qu'il faudrait étudier d'autre part. Le thème où le patriarche dit de sa femme qu'elle est sa sœur. Or, c'est un thème qui revient trois fois. C'est presque une obsession de l'enseignement biblique. Deux fois dans l'histoire d'Abraham et une fois dans l'histoire d'Isaac. Dans l'histoire d'Isaac, ça s'achève, ça s'interrompt, parce que c'est réussi. Chaque fois, il y a des modifications, un progrès dans ce qui se cherche là, dire de sa femme qu'elle est sa sœur. Je ne vais pas rentrer dans le sujet. Mais simplement indiquer que en Égypte, on prenait la sœur pour en faire la femme, et qu'il y a un affrontement de civilisation entre la civilisation des patriarches où de sa femme on fait sa sœur, contre l'option égyptienne où de sa sœur on fait sa femme. Parce que si c'est pas clair, on peut obscurcir plus, mais enfin, j'espère que c'est suffisamment clair. Eh bien, c'est dans le deuxième épisode, lorsque Abraham et Sarah sont chez Abimelech, le roi de Philistée, à Gaza, tout simplement. C'était un petit village à côté, Gerar. Okay. Eh bien, de la on dit la Philistée, c'est bien ça. Le pays des Philistins, c'est la Philistée. Philistim en hébreu, Pelachet. Non, parce qu'aujourd'hui on dit Palestine, alors ça me... Bon. Quoi qu'il en soit, j'ai oublié, je crois qu'on dit la Philistée, oui. Et quoi qu'il en soit, voilà ce qui se passe. Abraham a un message à délivrer, il arrive au poste de douane. Hein. Alors les douaniers lui demandent, tu as quelque chose à déclarer? Il dit oui, je déclare que ma femme c'est ma sœur. On n'a rien compris à ce qu'il voulait dire. Il dit, ah, c'est ta sœur, donc on peut la prendre. Et si c'est sa femme, on serait gêné. Okay. Mais ça veut dire rien à apprendre le sens de cette histoire, mais très schématiquement, il y a une promotion dans l'ordre moral, dans la relation d'autrui à autrui. Au niveau du premier homme, on est passé du stade mâle-femelle au stade époux-épouse. Il y a encore un autre stade qu'il faut conquérir. Et maintenant, l'époux-épouse doit devenir aussi frère et sœur. C'est le filigrane, si vous voulez, la ligne de lecture de cette. Et voilà que Abimelech prend Sarah, puisqu'il croit qu'elle est la sœur d'Abraham. Encore une fois, le récit reste mystérieux. C'est pas ça qu'on étudie, mais je vais citer un verset. Et puis, catastrophe, sa société est frappée de stérilité. Comme c'était déjà d'ailleurs dans le récit à propos du voyage de Sarah et d'Abraham et Sarah en Égypte. Une civilisation ne comprend pas que la femme, c'est la sœur. À quoi sert d'avoir des enfants? Donc, stérilité. Et alors, Dieu se révèle à Abimélec en songe et lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris la femme de cet homme. Et le mot de homme, ish, dans l'hébreu, lui, ça veut dire une grande personnalité. Ish, ish, anashim. C'est pas stam, ben adam. Ish, c'est quelqu'un. Je crois qu'en yiddish, on dit un mensch, ou machi, ou kazé. Dans ce sens comme ça. Eh bien, naïvement, Abimélec dit, mais il m'a dit que c'était sa sœur. Et donc, c'est innocemment que j'ai fait ça. Et Dieu répond d'ailleurs dans le rêve, c'est pourquoi je me révèle à toi pour t'empêcher de faire le mal. Parce que ça s'implique, je sais que tu es de bonne foi. Et Abimélec est terrifié. Il y a un verset extraordinaire où il dit à Dieu, « Agoy gam tzadik ta'arok. » Est-ce qu'un goy, même tzadik, tu vas le tuer? Écoutez l'expression, un goy, même tzadik. Un goy, quand tzadik, c'est-à-dire la Bible sait qu'un goy peut être tzadik. Vous ne vous attendiez pas à ça. Alors, Dieu lui répond, vous allez lire le verset, c'est la référence 1, entourée d'un rond. Verata, je lis et je traduis simultanément ce que Dieu dit à Abimélec, Verata est maintenant. Hachev Eshetaïch rend la femme de l'homme, Kinavihu, car il est prophète, Ve Itpalel Baradecha, et il priera pour toi. Jusque-là, ça suffit pour notre sujet. Et alors, dans ce que la Gemara dit à ce sujet, l'accentuation du verset rend ce sujet très difficile à comprendre. Et maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, et il priera pour toi. Alors prenez le texte du Talmud, qui est... où est-il, ce texte du Talmud? Je ne l'ai pas. Ah, le texte 5, oui. Alors, je vous explique brièvement le contexte de ce texte du Talmud, qui est dans Baba Kama, page 92a. C'est la référence 5. Voilà, on étudie les dédommagements que l'on doit payer, les dommages et intérêts, on peut dire, que l'on doit payer lorsqu'il y a eu un dol à quelqu'un. Alors, il y a 5 types de dédommagements. Un de ces types de dédommagements, c'est de mes boshto. Ça veut dire, on paye le prix de la honte qu'on a fait à quelqu'un en lui faisant du mal. On paye le prix du mal, on paye les conséquences du mal, mais on paye aussi le prix de la honte. Alors je lis, ça s'appelle Demé Bochet. Tanou Rabanan, nos maîtres ont enseigné, Kolelou chez Amrou, toutes ces réparations, dommages et intérêts qu'on vient d'énumérer plus haut, Demé Bochto, ça c'est le dédommagement de sa honte. Aval, Tsaharo, mais de sa souffrance, de son angoisse, parce que quand on a fait du mal à quelqu'un, non seulement il a honte d'avoir été humilié, mais il en souffre. Le prix de sa souffrance, « Afilu hevi kolele nevayot shebaolam » même s'il apporte en sacrifice tous les béliers de nevayot, c'était les béliers choisis de choix, qu'il y a au monde, « En nimchallo » on ne lui pardonne pas, « Achi bakesh mimenu » jusqu'à ce qu'il ne lui demande pardon. Je n'ai marre, d'après le verset de notre verset, « Ache veshetaïch kinavihu » rend la femme de l'homme, car il est prophète, Veit palel ba'adecha, il priera pour toi. Alors la Gemara demande, Deshet navi ba'ya adouré. Alors parce que c'est la femme d'un prophète, il faut la rendre. Eshet achar acher lo ba'ya adouré, la femme de quelqu'un d'autre, on ne rendrait pas. Il me manque la suite de la citation. Et je vous la dis de mémoire, il y a deux lignes là qui dit, ça nous enseigne que. Lorsqu'un étranger vient demander l'hospitalité, est-ce qu'on lui demande quelle est l'hospitalité dont il a besoin, ou bien on lui demande si c'est sa femme ou si c'est sa sœur? Alors comme il est prophète, il sait très bien qu'il s'agit d'une civilisation dépravée, et qu'il s'agissait d'autre chose, il s'agissait d'un message. Lorsque Israël voyage, c'est pour porter un message, pour délivrer un message. Et les patriarches ont compris cela, ont réalisé cela, que la femme doit être la sœur. Il commence à voyager pour dire à l'humanité entière, j'ai fait une découverte, ma femme c'est ma sœur. Et comment la civilisation où ils vont, c'est la civilisation extérieure, réagit à cette sœur. Alors on peut l'apprendre. Et alors tout de suite, Baba Kama, la Gemara, épingle Abimeler. Il dit, tu ne peux pas raconter d'histoire, il est prophète. Par conséquent, il sait que tu manques de politesse, dans le sens grec, que tu manques de moralité, de convivialité. Un des commentateurs de ce texte, c'est un peu mystique ce que je vais vous dire, mais je crois que c'est très très historique, compare cela au voyage d'Israël avec sa Torah, au voyage d'Israël avec sa Bible. Nous avons voyagé partout avec la Bible, et on nous a demandé, cette Bible, c'est votre femme ou votre sœur? Ça veut dire, est-ce que vous appartient à vous et qu'à vous, ou est-ce qu'elle est universelle? On répond bien sûr que c'est ma sœur, mais on oublie que c'est notre femme. Et alors, la problématique est exactement la même. On risque d'être tué pour qu'on prenne la femme qui est la sœur, parce que cette sœur a un mari. Est-ce que vous avez compris un peu ce drame-là? Alors, c'est ce qui est en filigrane de cette histoire. Et dans tous les cas, nous avons... Ça, c'est la lecture du pshat, d'après les accentuations de la Masora. Mais nous avons une autre lecture. Je vais relire le verset sans rien changer, sinon l'accentuation. Hashem Veshet Aish rend la femme de l'homme qui nabi hu veit palel ba'adecha, car il est prophète et il priera pour toi si tu la lui rends. Il n'y a que le prophète qui peut prier. Voilà, nous avons un verset où l'être de prophète et l'être de priant est relié. Et effectivement, seul le prophète peut prier. Ça veut dire quoi? Seul celui qui sait comment Dieu parle à l'homme peut lui parler à Dieu. Et comme la révélation a cessé, donc la capacité de prophétie dévoilée a cessé, les derniers des prophètes nous ont rédigé des textes de prière pour nous dire, voilà ce que l'homme a demandé. C'est le prophète qui sait ce que l'homme a demandé à Dieu. Nous avons tout un traité concernant l'étude de la prière. Je dirais simplement un des thèmes de ce que je viens d'indiquer. Est-ce que je sais, moi, vraiment, ce qui est bien pour moi? Il n'y a que Dieu qui le sait. Et si je demande quelque chose qui n'est pas pour moi, et qui serait dangereux pour moi, ce serait une catastrophe. Alors, l'entreprise de la prière est extrêmement périlleuse. Et si jamais je suis exaucé, alors que j'ai dit une bêtise, enfin j'ai dit une bêtise, je suis mal exprimé, vous avez compris. Alors j'ai demandé une... On raconte dans le Talmud l'histoire suivante. Il y avait un homme très pieux, un rabbin très pieux. Ça existe les rabbins pieux, vous savez. Alors, il y avait un rabbin très pieux, mais qui était privé de tout. Sa femme, à bout de patience, lui demande, mais prie que Dieu nous exauce et qu'on ait de quoi faire Shabbat cette semaine. Il n'y avait rien dans la maison. Alors il prie, après beaucoup d'hésitation, parce qu'un tzaddik a peur de prier. Un tzaddik sait que c'est ce que Dieu fait qui est bien fait. Mais elle a une dimension de piété profonde dont on a perdu l'idée. Hein? Après tout, la prière c'est quoi? Se mettre devant Dieu et lui dire, tu sais mon Dieu, la manière dont tu gères ton monde ne me convient pas. Change. Je n'écoute pas. Okay? Et, bon, on ira plus loin que ça. Mais le tzaddik connaît ce caractère périlleux de la prière. Il y a des... Je ne sais pas comment dire cela. Il y a des situations qui donnent le droit à la prière. Mais normalement, si j'ai besoin de combler un manque, c'est le travail qui devrait me permettre de combler le manque. L'homme a été créé, je cite le récit biblique, pour travailler le monde et préserver le fruit du travail. Mais si aucun travail ne peut permettre d'atteindre ce qui est vraiment manque, alors j'ai droit à ce travail qui s'appelle le culte de la demande de la prière. Mais est-ce que je sais ce qui est vraiment manque? Je vous dirai comment le Talmud nous donne le modèle de ce qui est vraiment manque. Je voudrais que vous ne preniez pas cela ni pour de la poésie, ni pour de la psychologie, ni surtout de comparer cela avec vos propres situations existentielles ou celles de la cousine d'ailleurs. Le Talmud dit, c'est la mère sans enfant. Alors c'est Hannah, la mère de Samuel, qui prie parce qu'elle n'a pas d'enfant. Alors elle nous a gardé les prières d'une très grande beauté. Et on ne peut pas ne pas être ému quand on les cite. Par exemple, Hannah dit, tout ce que tu as créé a une finalité, un sens, un objet, un but. Tu m'as donné des seins, c'est pour allaiter qui? une prière de ce genre traverse les firmaments. Eh bien, c'est là que le Talmud enseigne qu'est-ce que c'est vraiment le manque. Il faut que ça soit sérieux. Imaginez un manque qui est juif, qui à la synagogue demanderait avec ferveur son pain quotidien. Vous avez entendu ce que je viens de dire. Et pour ça, il faut demander le surplus. Il faut demander la bénédiction du pain. Il faut demander le goût du pain, parce que le pain, il faut le travailler. Il y a toute une philosophie de la prière que le Maharal de Prague a admirablement enseignée, formulée. Pas n'importe quoi est objet de prière. Il y a des prières qui sont des blasphèmes. Je cite toujours le Talmud. Si je suis en chemin et on m'annonce que dans mon village, il y a une maison qui brûle, j'ai pas le droit de dire, mon Dieu, fais que ce soit pas la mienne. Parce que si c'est la mienne, c'est la mienne. Qu'est-ce que je vais transformer Dieu en magicien? Et d'autres exemples. Je me souviens, un souvenir d'enfance que j'ai l'habitude de raconter aux élèves. Chaque fois que j'allais, moi j'étais enfant, pieux comme un enfant, mais ma mère était une sainte femme, très pieuse. Et alors, chaque fois que j'avais une composition, je demandais à ma mère, fais une prière, que ça se passe bien. Vous savez qu'est-ce qu'elle faisait? Elle me donnait un morceau de sucre. Elle me disait, si tu as un malaise, mange de sucre. Est-ce que on réussit un examen par la prière? Imaginez par exemple un médecin qui a des concours de médecine à passer et que c'est grâce à une prière qu'il devient médecin. Est-ce qu'on peut se faire soigner par lui? Bon, je referme la parenthèse. Il y a l'objet de la prière, c'est le manque. Vraiment, rappelez-moi pourquoi j'ai cité tout ça. Ah oui, c'est cela. Alors, en fin de compte, c'est Rabbi Chaim Mendoza, il prie, et puis il s'endorme, et le matin, il y avait un pied de table en or dans la chambre. Et le rabbin dit, ça ne touche pas, c'est bizarre, ça, c'est pas cachère. Et alors, il était embêté, et puis il dit, ne touche pas, je vais essayer de voir ce que Dieu m'a dit cette nuit. Alors la nuit, dans le rêve, il se voit au paradis avec ses collègues. Tous ses collègues étaient assis autour de table où il y avait quatre pieds, et lui, il avait une table où il y avait trois pieds. Alors, en se réveillant, il a prié, il a demandé que le pied remonte. Et le Talmud dit, le deuxième miracle était plus grand que le premier. Et effectivement, ça veut dire, et si jamais ce jour tient ici, parce que je crois que j'en ai besoin, même en crâne là-haut, mais le scrupule du Tzadik. C'est pourquoi nous coulons notre intention de prière dans les textes que les derniers prophètes nous ont laissés. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de la prière individuelle, et cela n'a aucune liturgie, aucun moment précis, aucune langue d'ailleurs, chacun comme il sait, dans sa bonne foi propre, à condition qu'il s'agisse d'un manque réel. Mais heureusement, si vous voulez, Dieu est grand, ça veut dire que c'est Dieu qui décide. Parce que, et si j'ai un souhait qui me ferait du mal? Je donne un exemple que je me souviens d'avoir compris aux études dans le lycée, en classe de biologie, quand j'ai appris qu'on avait un système nerveux cérébral sur lequel la volonté a prise, et un système sympathique, c'est bien comme ça qu'on dit, système sympathique où la volonté a pris. Par exemple, les battements du cœur. Et si jamais les battements du cœur étaient soumis à la volonté? Et si jamais les autres fonctions qui doivent être déconnectées de ma volonté pour que je continue à vivre, parce que si un jour j'ai le cafard, je dis ouf, et puis je sois exaucé. Vous avez compris l'idée. Bon. Et par conséquent, on voit bien qu'il y a un problème à ce sujet concernant l'objet de la prière. Seuls les prophètes pouvaient savoir quelle est la volonté de Dieu pour sa créature. Vous voyez comme nous sommes loin de ce temps-là. Nous, alors on permet l'épanchement du cœur, on permet l'oraison, on permet la louange, on permet toutes ces liturgies qui ne sont pas les prières de demande et qui sont soumises à la sincérité de l'épanchement du cœur. Mais ce n'est pas la prière dans le sens strict de demander. Alors j'avais cité que David est le modèle de la prière personnelle, mais Moïse est le modèle, la prière de Moïse est le modèle de la prière pour le peuple. C'est en cela que Moïse est serviteur de Dieu, mais comment, en étant serviteur du peuple, donc tout de suite prendre un exemple. Mais avant cela, je voudrais quand même vous donner une citation que vous n'avez pas, qui me semble importante. Il s'agit du verset, de deux versets, dans le Deutéronome, le verset 7 et le verset 8. Je lis directement en français. Chapitre 4 de Deutéronome, verset 7 et verset 8. Car qui est grande nation qui aurait des dieux proches d'elle, comme Hachem, notre Dieu, en tout ce en quoi nous l'invoquons? C'est-à-dire, et quelle est cette grande nation dont le Dieu, cette autre nation dont le Dieu est aussi proche d'elle lorsque on l'invoque? Prière. Ou Mikro Yadol, et quelle est cette grande nation, quelle serait cette grande nation, Asher lo chukim u'mishpatim tzadikim, qui aurait des préceptes et des lois justes, kechol la Torah azot asher nochim u'tilim tefer hayom, comme toute cette Torah que je vous donne aujourd'hui. Vous voyez comment c'est relié, la capacité de prière et la capacité de nos prophéties de la loi. Ça va ensemble. Je voulais vous donner cette citation parce qu'elle me semble importante. Et une dernière citation dans une Gemara de Brachot, que je vais vous lire très rapidement en vous donnant la référence au sujet de ce lien entre, toujours nous sommes dans l'intitulé serviteur et maître, entre la prière et la prophétie. Alors voilà, on raconte une histoire que un des grands priants du temps du Talmud avait l'habitude de savoir pendant qu'il priait si sa prière serait exaucée ou pas. Et puis, son maître, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui connaissait, qui savait que c'était un rabbin miraculeux, son élève, vous savez que c'est un rabbin miraculeux, c'est un rabbin que c'est un miracle, que c'est un rabbin. Rabbi Yochanan ben Zakkai demande à son élève de prier pour son fils, parce que son fils était malade. Et voilà que l'élève lui dit, il est guéri. Il est guéri. Pendant que je priais, il a demandé à boire, sa fièvre a cessé. On a vérifié, effectivement, au moment où il priait, l'enfant avait demandé à boire. Et alors la femme de Rabbi Yochanan ben Zakkai lui dit, comment? Ton élève est plus grand que toi? Il dit non. Mais, je vous lis la phrase. Amar la lav, et la houdome kev et lifna meler, venidome kesar lifna meler. Voilà ce que dit le maître. Lui ressemble à un serviteur auprès du roi, et moi je ressemble à un ministre auprès du roi. Quel rapport avec notre thème? Sa prière est plus possible que celle de son maître qui se compare au ministre, la prière du serviteur. Rashi dit ceci, Ka'eved, ben bait nichnas v'yotze shelo birshut. C'est-à-dire que le serviteur rentre chez le roi n'importe quand, sans avoir demandé autorisation, parce qu'il est au service de l'intimité du roi, alors que le ministre demande une audience. Alors c'est comme ça que le maître répond au de son élève. Je prends l'expression « lifne hameler », devant le roi. En hébreu, ça peut signifier « devant le roi » comme cela, il y a le roi, et moi je suis devant, ou bien « devant le roi » face à face. Alors le Eved est face à face du roi, alors que le ministre est devant le roi, face tournée vers le peuple. Je sais que dans l'Église contemporaine, il y a eu une discussion de savoir si le curé doit être face au mur ou face... mais ce n'est pas du tout ça. Ça veut dire qu'il y a chez le serviteur une capacité plus grande pour la prière. Vous voyez comment cette citation relie aussi nos deux notions. Alors je voudrais tout de suite aborder un texte concernant la prière de Moïse. Un parmi les textes que j'avais choisi. Vous allez prendre donc le chapitre 32 de l'Exode. Peut-être non, quand même. Avant, vous allez prendre la citation du chapitre 2 de l'Exode. Elle se trouve où? Voilà, elle se trouve dans cette page. La citation 3. Vous y êtes? Alors, je traduis. C'est le chapitre 2, versets 11 à 15 de l'Exode. Voilà de quoi il s'agit. Moïse a grandi dans le palais du Pharaon, et voici que Il grandit et il est mené à décider de choisir qui sont ses frères, les Égyptiens ou les Hébreux. Alors, ça va déclencher la fuite de Moïse chez Jéthro à Midian. Alors, je voudrais là mettre en évidence la dimension du caractère universel de la prière de Moïse. Ce premier texte que nous allons lire, avec l'appui d'un rachi de la fin du texte, nous servira de préface au deuxième texte qui sera le texte de conclusion. Verset 11. Vaïhi bayamimahem. Et il arriva en ces temps-là, en ces jours-là, Bagdal Moshe, que Moïse grandit, Vayetse Elechav, il sortit vers ses frères, Vayar Besiblotam, et il considéra leur souffrance, pas leur souffrance, leur fardeau, leur tâche, Vayar Ishmitzri, et il vit un homme égyptien, Maké Ishivri Mechav, frappant un homme hébreu de ses frères. La fin du verset, un homme hébreu de ses frères, montre qu'au début du verset, il n'a pas encore décidé qui sont ses frères. Est-ce que c'est clair où je relis le verset? Moïse sortit vers ses frères. Mais comme nous avons vu tout à l'heure, ses frères, ça pouvait être les Égyptiens, qui étaient les maîtres, ou les Hébreux, qui étaient les esclaves. Lorsque Moïse voit l'homme égyptien frapper l'homme hébreu, il décide que ses frères, c'est l'homme hébreu. Donc c'est une raison d'ordre moral qui a déterminé Moïse à choisir pour les Hébreux et pas pour les Égyptiens, à choisir pour l'hébreu et pas pour l'égyptien. À choisir donc pour l'hébreu en lui et pas pour l'égyptien en lui. Il lui faudra 40 ans à Midian pour arriver à surmonter ce problème. Puisqu'il y a en Moïse deux hommes, l'égyptien et l'hébreu. Rien à voir avec ce que dit Freud de Moïse. Rien à voir. Mais il y a en lui. J'ai dit tout à l'heure, peut-être un peu trop abondamment, mais c'était nécessaire, que c'est notre cas en quoi que ce soit. Il y a en nous deux insertions anthropologiques, deux insertions humaines, en quoi que ce soit, et c'est l'histoire de l'identité juive. Eh bien, c'est à la fin du verset qu'il décide que ses frères sont des Hébreux. Je voudrais essayer de décrire cette situation qui s'est passée dans les générations des Juifs de France. Je prends cet exemple, mais c'est vrai, des Juifs du monde entier, à la génération qui ont suivi la Shoah. Énormément de Juifs qui n'avaient pas décidé s'ils étaient d'Égypte ou d'Israël ont fini par rejoindre l'identité juive à cause de ce qui s'était passé dans la Shoah. C'est-à-dire, ce sont des raisons d'ordre moral qui expliquent l'option de Moïse et l'option des Juifs dont je vous parle, qui étaient d'ailleurs la plupart du temps des Israélites dans le sens classique. Et puisqu'il s'était passé cela, ils ont rejoint leur identité juive. En particulier, je crois que c'est le cas après l'expérience de la séduction du marxisme, de ce qu'on a appelé les nouveaux philosophes chez les juifs de France. Ils vivent quelque chose de très analogue à ce que va vivre Moïse là. Déçu de la situation extérieure, ça c'est notre premier verset, et dans le deuxième verset on va voir, mais déçu de la communauté juive elle-même, ça c'est le deuxième verset. Vaïfen Kovako, il se tourna à ça et là, Vayar qui est niche, il vit qu'il n'y avait personne. Vayar est à Mitzri, il frappe à l'Égyptien. Vaitmenehu Bachol, il l'enfouit dans le sable. C'est un verset qui veut dire en fait que son choix a enfoui l'Égypte tout entière dans les sables, d'Abou Simbel ou les autres. Son choix fait basculer l'histoire du côté d'Israël hébreu, alors qu'elle aurait pu être, on ne refait pas l'histoire à l'envers, à travers la civilisation égyptienne. Est-ce que c'est bien clair la portée de ce choix de Moïse? Il est évident, il était tout puissant. Il n'avait pas du tout peur d'avoir tué un Égyptien. C'était vraiment le potentat de l'Égypte, Moïse, à l'époque. Alors pourquoi il se tourne là et là pour savoir si personne ne le voit? Le Midrash explique. Il a scruté l'avenir des générations de l'Égypte. Et il a vu qu'il n'y avait aucun Égyptien qui ne reviendrait à l'authenticité humaine grâce à Israël. Donc Israël n'avait plus à rester en Égypte. Je dis ça à ma manière, hein, ceux qui connaissent la source comprennent la différence. Et Voilà que la verset 13, Vayetse Bayom Hasheni, il sortit le deuxième jour, Veine Shne Anashim et Ivrim, et voici deux hommes hébreux, Nitzim, se querellant, plus se disputant. Vayomer l'Aracha, il dit au méchant, celui qui avait la main levée, Lamatakeha, pourquoi frapperais-tu ton prochain en rentrant tout de suite derrière, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le mot de prochain qui induit la relation à l'autre verset. Kach et Vayomer, Misam Khaleish, Sarbechofet, alors le méchant lui dit qu'il t'a mis sur nous comme. C'est la chutzpa juive, enfin hébraïque de l'époque. Imaginez un esclave des camps de concentration en Égypte qui vient dire au capot en chef qui t'a placé comme adjudant sur nous. Vaïra Moshe, est-ce que tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Vaïra Moshe, Moïse eut peur. Vayomer, et il dit, Achen Odar Adabar, ainsi la chose est connue, que j'ai tué l'Égyptien. Vaishmar parole est adabarazé, et le pharaon entendit cette chose-là, c'est arrivé jusqu'au pharaon. Moïse a pris parti pour l'hébreu contre l'Égypte. Et Vaibakesh la Harovet Moshe, il chercha à tuer Moïse. Vaibrach Moshe Mipene Paro, et Moïse s'enfuit de devant le pharaon. Vaishev Beret Midian, et il résida au pays de Midian, Vayeshev à la Béer. Il s'assit auprès du puits. C'est la fin du verset que nous allons étudier. D'après ce que dit le récit, c'est très clair, très dense et très, très accéléré. Moïse sait où il va. Il va chez Midian, à Midian, et c'est là-bas qu'il va rencontrer Jéthro et sa famille, et il s'assit auprès d'un puits. Rashi va nous donner la clé de ce récit. Prenez la fin du Rashi, vous avez un gros caractère. Sur le milieu de l'avant-dernière ligne, va Yeshua à la Béer, et il s'assit près du puits. Voilà ce que dit Rashi. L'amad me Yaakov, il a appris à faire cela de Jacob, chez Nisdavugla Zivugo, qui a rencontré son âme sœur, si vous voulez, à la Béer, auprès du puits. Alors ce Rashi est très clair. Il a été tenté de faire comme Jacob, fonder un peuple d'Israël qui remplacerait ce peuple d'Israël corrompu en Égypte. Et je crois qu'il y a là, encore une fois, le modèle, ou disons le paradigme, de beaucoup de tentations de l'homme de diaspora lorsqu'il est déçu de la situation extérieure, qu'il est tenté de rentrer dans la communauté, mais qu'il est déçu de la communauté. Je vous imagine la scène, Ken. Sortant des camps de concentration, on rentre dans une réunion du consistoire. Vous voyez à peu près ce qui arrive à Moïse, Ken. Alors, il y a vraiment une déception, c'est très accéléré tout ce récit, il y a une déception de la civilisation égyptienne, mais une déception de l'état où est Israël en Égypte. Et alors il va à Midian. Qui est Midian? Midian est un descendant d'Abraham. Et le grand prêtre des Midianites, descendant d'Abraham, le Midrash nous raconte, avait répudié toutes les idolâtries. Il était comme Abraham ayant détruit les idoles. Et donc disponible pour une révélation de vérité. Et donc là, c'est en filigrane dans le texte, mais je vais très loin. Moïse est tenté, jusque-là Dieu ne s'est jamais révélé à Moïse encore. Moïse est tenté de chercher un remplaçant à Israël d'Égypte. Ce n'est que plus tard que Dieu va se révéler à lui, 40 ans après, dans la vision du buisson ardent, pour dire non, il y a un seul Israël, celui d'Égypte, retourne le sauver, le temps est arrivé. Je schématise toute cette histoire pour arriver au fait que lorsque Moïse a réussi, à travers toute l'histoire des péripéties des 10 plaies et toute cette grande tribulation racontée dans la Gada de Pessah, a réussi à faire sortir Israël d'Égypte, il fait sortir en même temps qu'Israël ce que le texte appelle Erev Rav, c'est-à-dire une foule d'hommes et de femmes qui n'étaient pas d'Israël, mais qui avaient eu la même expérience d'exil qu'Israël et qui recherchaient le salut d'Israël, et Moïse les intègre à Israël. Vous suivez cela, c'est pas trop ramassé. Voilà donc ce qui se passe. Moïse, chargé par Dieu de sauver Israël, sauve l'humanité. En résumé, en échantillonnage de délégations, de ce qui des hommes avaient connu dans la civilisation de l'Égypte de ce temps, l'expérience d'exil d'Israël et qui était donc candidat au salut d'Israël. Un peu à la manière dont nous commençons la Gazette Pessah en disant, en proclamant, on ouvre la porte et on proclame, quiconque est dans cette nécessité vient de faire Pâques avec nous. Je reprends donc ce par quoi j'avais commencé. Et alors se passe ce chapitre 32, je ne veux pas vous prendre trop de temps, dans lequel il y a deux prières de Moïse. Je m'arrêterai là pour ce soir. Après vous aurez la parole si jamais il y a quelque chose à éclaircir. Je vous raconte l'histoire, parce qu'on n'a plus le temps de lire en exégèse. Je vous raconte l'histoire et je vous signale les versets dont il s'agit. Voilà donc que, lorsque Moïse est monté sur la montagne du Sinaï, après la révélation des 10 commandements, pour recevoir les tables des 10 commandements et l'enseignement de toute la Torah dans les 40 jours, il tarde de descendre de la montagne 6 heures. C'est le premier verset, et le peuple vit que Moïse avait tardé. Il a tardé de 6 heures. Là, vous donnez rendez-vous dans 40 jours, et voilà que ça tarde de 6 heures. Alors là, je dois indiquer, sans l'étudier, il y a ici une allusion à des réalités d'ordre, de temps astronomique, qui nous dépassent infiniment ici, à ce niveau de l'étude. Qu'est-ce que c'est que ce décalage de 6 heures qui déclenche une telle catastrophe? Moïse, qui avait remplacé la religion astrologique, cosmique, de l'astrobiologie d'ailleurs plus exactement, par la loi morale, tarde à descendre de la montagne, désarroi dans ce peuple qui grâce a vu dans Moïse le fondateur de la religion du salut par la morale, mais il n'est plus là et on n'a pas sa loi. On va donc retourner à la religiosité ancienne et on va demander à Aaron de fabriquer le symbole remplaçant Moïse. Le verset est très clair. Lorsque le peuple dit à Aaron, « Va, fais-nous des dieux qui marcheront devant nous, car de cet homme Moïse qui nous a fait monter l'Égypte, nous savons plus ce qui est arrivé. » Il s'agit bien de remplacer Moïse, pas de remplacer Dieu. Et donc la faute avait été de diviniser Moïse. Qui a fait cette faute? Alors là, il faut être très clair et étudier le texte à la loupe. Il y a 3 expressions qui désignent ce peuple, différentes, qui désignent ce peuple qui sort d'Égypte. Il y a le mot « haram », le peuple. Et dans tous les contextes où ce mot est employé, il s'agit des non-hébreux sortis avec les hébreux sur l'initiative de Moïse. Il y a d'autre part l'expression « les enfants d'Israël »,« bnei Israël ». Là, il s'agit des descendants des tribus. Lorsqu'à la fin de toute cette histoire, Dieu accepte que le Ham, le peuple du Hadjavram, du grand mélange extérieur, s'intègre à Israël, et alors nous avons l'expression Ham Bene Israël, le peuple des enfants d'Israël. Je répète ces 3 niveaux pour dire qu'a priori il y avait 2 ensembles très différents de nature, les Hébreux d'Égypte avec leur expérience, et le Hadjavram, les non-Hébreux sortis d'Égypte sur l'initiative de Moïse, et puis ensuite, c'est intégré l'un à l'autre et ça devient Ham Ben Israël, le peuple des enfants d'Israël. Ça, c'est un sujet qu'il faudrait étudier vraiment très attentivement. En fait, l'initiative de cette faute du vaudor, entre guillemets, vient du Hadjavram, d'après le texte, et nous en avons une preuve claire. Et il dit à Israël, voici tes dieux Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Ils dirent à Israël, voici tes dieux Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. C'est le Hadjavram qui s'adresse à Israël. Et finalement, Moïse prie 2 fois. Il prie d'abord pour Israël. Et ensuite, une fois que ce Hadjavram est intégré à Israël, il prie pour le Hadjavram. J'ai cité cet exemple de la prière de Moïse pour indiquer le fait que la prière de Moïse est le modèle de la prière pour le peuple. Et cette prière pour le peuple a une dimension de la prière pour l'universel de l'humanité à travers le Hadjavram. C'est, si on n'entre pas profondément dans ce que le texte dit exactement comme il le dit, c'est un récit mystérieux. D'abord, pourquoi Moïse a pris l'initiative d'intégrer le Hadjavram? Et ensuite, pourquoi tient-il à ce que Dieu pardonne, quelle que soit d'ailleurs la part de co-responsabilité de l'Israël hébreu dans cette faute parce qu'il n'a pas réussi à l'empêcher. Alors nous allons voir de quoi il s'agit assez rapidement. Voici la première prière. Vous prenez au verset 10, suivez en français pendant que je lis sur l'hébreu, au verset 10, quand Dieu dit à Moïse, déjà au verset 9, « J'ai vu ce peuple, et voici, c'est un peuple à la nuque raide. » Et dans ce verset, il ne s'agit pas d'Israël, mais il s'agit du Hérémal, Aram, ce peuple. « Ve'ata anichali, et maintenant laisse-moi, va'yichar apibahem, ma colère s'enflamma contre eux, va'achalem, et je les détruirai, ve'es et otra, les goïgadol, et je ferai de toi une grande nation. » Avant de voir la suite, parce que nous allons commencer à lire la première prière de Moïse, je voudrais vous citer le Talmud. Le Talmud va introduire la prière de Moïse de la manière suivante. La plaider en disant « Souviens-toi de tes promesses à Abraham, Isaac et Jacob. » Alors le Talmud explique ça de cette manière. Moïse dit à Dieu « Tu me dis, je vais détruire ce peuple et je ferai de toi une grande nation. Rappelle-toi de la promesse que tu as faite à Abraham, Isaac et Jacob. » Mais si c'est un peuple qui descend de Moïse, c'est aussi un peuple qui descend d'Abraham, Isaac et de Jacob. Quel est le sens de cette prière? Et je lui dis, voilà ce qu'a dit Moïse. Une table qui n'a pas pu tenir sur trois pieds, et tu voudrais une table qui tiendrait sur un pied. En réalité, il veut dire, une table qui n'avait que quatre pieds moins un, n'a pas pu tenir, et tu veux qu'une table qui ait quatre pieds moins trois tienne. Et en fait, là apparaît la fonction différente de Moïse et des patriarches. Les patriarches sont les engendreurs du peuple, sont ceux qui ont fait enfanter la nation d'Israël. Moïse, c'est le maître de cette nation. Et ça voudrait dire, je paraphrase le dialogue entre Moïse et Dieu, Moïse dit à Dieu, je sais que ce que tu as voulu faire, c'est un peuple de prêtres, pas une église dans le sens d'une synagogue, ou une synagogue dans le sens d'une église. Il s'agit des descendants d'Abraham, Isaac et de Jacob, pas des élèves de Moïse. Vous voyez, c'est ce changement de stratégie de la providence que Moïse veut empêcher. La nation comme nation a échoué, on va faire une église. Moïse refuse. Et il sait que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi Moïse va briser l'étape de la loi. Et Dieu va le féliciter d'avoir brisé l'étape de la loi. Le raisonnement là est, tant que la loi est là, le peuple est condamné. Je mets la loi entre parenthèses pour sauver le peuple. C'est un geste de Moïse. Et Dieu dit, ça c'est dans le Deutéronome, lorsque Dieu lui dit, reprends deux autres tables et tu écriras ce qu'il y avait écrit dans les tables que tu avais brisées, et alors Asher Shibarta, ce que tu avais brisé de trop, on savait que Moïse avait brisé les tables, et Talmud dit, Yashar Kohacha Shibarta, que tu as bien fait de briser. Je l'exprimerai de la manière suivante. Dieu ne peut pas porter atteinte à l'absolu de la loi, parce que c'est porter atteinte à sa volonté, à sa vérité. Mais il souhaite que Moïse prenne l'initiative de briser l'étape de la loi pour sauver le peuple. Ça, c'est un geste du salut pour le peuple, mais je veux citer en parallèle à la prière pour le peuple. Et alors, voici cette prière. « Vaïchal Moshe » et Moïse pria, verset 11, « Et pene Hachem Elokav » devant Hachem son Dieu, Vayomar, et il dit, Lama Hachem Yecher Apecha Beramecha, pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple? Vous voyez, plus haut, Dieu a dit à Moïse, ton peuple a fauté, et il s'agit du Hérav que tu as fait sortir d'Égypte. Et Moïse plaide en disant, mais pourquoi ta colère s'enflammerait contre ton peuple? Et il va plaider pour Israël. Le raisonnement est le suivant, si le Hérav est perdu, Israël est perdu. Parce que si le Hérav est perdu, toute l'histoire d'exil n'aura plus de sens. Il faudra qu'Israël retourne en exil pour faire ressortir un Hérav. Parce qu'il s'agissait de sauver les étincelles de sainteté perdues dans l'Égypte. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Et c'est une des raisons de la dimension universelle de l'histoire d'Israël, une des raisons de la dispersion d'Israël qui se transforme lorsqu'il y a catastrophe en exil. Et pour sauver Israël, il faut pardonner au Hérav. Voilà la première prière de Moïse. Vous voyez que la prière de Moïse a la portée de la prière du prophète de la loi. Une des paraphrases du Talmud, c'est de dire, je voudrais, si tu ne leur pardonnes pas, efface-moi de ton livre. Qu'on ne dise pas, il était là pour donner la loi, mais il n'était pas là pour prier pour nous. Vous voyez quelle est l'argumentation talmudique. Et alors voilà, donc la première prière concerne Israël. Sauve Israël, Eslira, sauve la Eleva, parce qu'il faut que tu sauves Israël. La première prière est pour Israël. Dieu s'apprêtait à détruire toute cette génération, Eleva et Israël, à cause de la faute du Vaudor. Et Moïse seul n'a pas participé à cela. Oh, je schématise beaucoup, il y avait aussi la tribu de Lévi, en grande partie. Et alors de Moïse serait sorti un Israël. Mais Israël, l'ensemble des disciples du Maître, c'est une église. Israël, les fils des patriarches, c'est une nation. Voilà ce qu'il y a comme enjeu de cette prière. Est-ce que c'est suffisamment clair? C'est d'ailleurs un des points de discussion et d'achoppement avec la lecture chrétienne de la Bible. Vous le percevez. Et alors, une fois que Dieu a accepté de suspendre la sanction, nous avons la deuxième prière. Alors là, vous allez prendre le verset 31. Et Dieu, et Moïse revint vers Dieu et dit, « De grâce, ce peuple a fauté une grande faute, et ils ont fait un dieu d'or, et maintenant, ou bien tu leur pardonnes, sinon, efface-moi de mon lit. »